Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 16 juillet 2015. À la une ce soir, Morgane.
Raid aérien des États-Unis en Somalie. Bilan, au moins 30 islamistes d'Al-Shabaab tués.
Au Burundi, les négociations se poursuivent sous les auspices de la médiation ougandaise à 5 jours de la présidentielle.
Nous reviendrons ce soir sur la situation des réfugiés et des déplacés à Diffa, au Niger.
L'Occident cherche à rassurer Israël après l'accord sur le nucléaire iranien.
C'est un pays extrêmement divisé au point de vue politique, mais on sait que les partis politiques considèrent cet accord comme extrêmement dangereux.
Analyse à suivre de Setare Sig.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Raid aérien dans le sud de la Somalie, le ministère kényan de l'Intérieur, cité par l'AFP, dénombre au moins 30 islamistes d'Al-Shabaab tués dans cette frappe menée par les États-Unis. Ce raid survient une semaine avant la visite au Kenya du président américain Barack Obama. On fait le point avec Michel Joseph.
Le raid aérien a été mené par un drone américain ce jeudi à 2h du matin dans les environs de Jungal et Bardere. Selon des témoins, une voiture transportant de hauts responsables Shabab a explosé. Nairobi affirme que des figures de proue du mouvement intégriste, comptant parmi les plus recherchés, dont des organisateurs d'attaques au Kenya, ont ainsi trouvé la mort. Les autorités kenyanes précisent en revanche que Mohamed Mohamoud n'a pas été tué dans l'attaque, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé. Surnommé Kuno, il est présenté comme le principal organisateur du massacre de l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts le 2 avril dans le nord-est du Kenya. Nairobi a offert une récompense de plus de 200 000 euros pour sa capture. Les États-Unis ont lancé de nombreuses attaques de drones en Somalie ces dernières années et les forces kenyanes ont l'habitude de transmettre des informations de terrain et du renseignement pour de telles frappes.
Suite des négociations à Bujumbura sous les auspices de la médiation ougandaise, aucune avancée pour le moment, même si les deux parties poursuivent les pourparlers. Nicolas Pineau.
C'est le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, qui est arrivé ce jeudi à Bujumbura. Il a pris le relais de son président, Yoweri Museveni, qui assure cette médiation entre les différents acteurs de cette crise burundaise. La rencontre a débuté en fin d'après-midi avec les représentants de la société civile. Chaque camp reste ferme sur ses positions. Pierre Nkurunziza veut aller aux élections qu'il est sûr de remporter pour un troisième mandat. L'opposition, elle, dénonce toujours le non-respect des accords d'Arusha et de la constitution burundaise qui limite à 2 mandats chaque président burundais. A noter que le nouveau président burundais doit prêter serment le 26 août, sans quoi il y aurait un vide juridique. Les violences se sont intensifiées ces dernières semaines et le week-end dernier, l'armée burundaise a affronté un groupe armé dans le nord du pays, dans des provinces frontalières du Rwanda et de la République démocratique du Congo.
Tension politique au Rwanda, le FDU dénonce la détérioration des conditions de détention de Victoire Ingabire, présidente de ce parti d'opposition, condamnée à 15 ans de prison pour conspiration. Depuis vendredi, la direction de la prison centrale de Kigali a durci son régime carcéral sans aucune explication. C'est ce qu'affirme l'un des vice-présidents des Forces démocratiques unifiées dans une lettre ouverte obtenue par l'AFP. Son avocat, Maître Gatera, n'aurait pas été autorisé à la rencontrer au motif qu'il n'avait plus rien à faire à la prison car sa cliente a déjà été jugée. Et mardi dernier, toutes les ouvertures laissant entrer de la lumière dans sa cellule ont été bouchées, déplore le texte. Le commissaire général des services correctionnels rwandais dément.
Dans l'extrême nord du Cameroun, les autorités ont interdit le port du voile intégral pour lutter contre les attentats. Idriss Fall.
Le gouverneur Midi Yawa Bakari a déclaré que le voile intégral est complètement interdit dans la région de l'extrême nord. Il a ordonné aux gendarmes et policiers d'interpeller toute personne qui braverait l'interdit. Il a aussi prescrit le contrôle systématique des voitures, des bagages, la circulation des motos la nuit et les véhicules aux vitres fumées. La ville de Fotokol, à la frontière nigériane, a subi dimanche sa première attaque suicide perpétrée par 2 femmes kamikazes vêtues d'un voile intégral. 11 personnes ont été tuées. À Yaoundé, les fidèles musulmans ne sont plus autorisés à entrer dans les mosquées avec des sacs ou des sachets. Le Tchad voisin, également cible d'attentats de Boko Haram, a interdit le port du voile intégral. Le Gabon, jusqu'ici épargné par les violences, a décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le niqab.
Et nouvelle violence dans le Sinaï, en Égypte. La branche nationale du groupe État islamique revendique une attaque contre un bateau de la marine au large de la péninsule. C'est ce que rapporte le site américain spécialisé Site, qui a diffusé le communiqué de l'organisation djihadiste. Les islamistes affirment avoir frappé avec un missile téléguidé une frégate de la marine égyptienne en mer Méditerranée, au nord de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza.
Fin de la conférence de 4 jours sur le développement à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les pays riches et en développement se sont entendus sur les moyens de trouver les quelque 2500 milliards de dollars nécessaires au financement du développement d'ici à 2030. Ces fonds sont nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de développement durable que l'ONU est en train de fixer pour 2015-2030, avec l'ambition d'éradiquer d'ici 2030 la pauvreté et la faim dans le monde, tout en maîtrisant le changement climatique. D'après l'AFP, les pays donateurs ont réaffirmé leur objectif de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide au développement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et dans le reste du monde, suite à l'accord conclu avec l'Iran, les puissances occidentales tentent de rassurer Israël. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond, était à Jérusalem où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Avant cette rencontre, M. Hammond a affirmé que des mesures solides étaient en place pour garantir l'application de l'accord. Cependant, M. Netanyahou a qualifié d'erreur historique l'arrangement conclu mardi à Vienne qui vise à empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions. La casse politique israélienne est généralement contre l'accord, nous rappelle notre collègue Setare Sig.
C'est un pays extrêmement divisé au point de vue politique, mais on sait que les partis politiques se sont unis pour dire que cet accord, enfin ils considèrent cet accord comme extrêmement dangereux. Mais il faut aussi dire que le Premier ministre israélien a dit que son pays fera tout pour se défendre. Alors, avec la levée de l'embargo des armes qui fait partie de cet accord dans les 5 prochaines années, je pense que le Premier ministre israélien sera un tout petit peu coincé.
C'est un récit du service persan de la VOA qui sera notre invité dans la seconde partie de cette édition.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé ce jeudi qu'il se rendra le 3 août prochain dans le pays du Golfe pour y présenter l'accord sur le nucléaire iranien. Monsieur Kerry a déclaré, à l'issue d'une rencontre avec son homologue saoudien Adel Al-Jubeir à Washington, qu'il va apporter une information complète et répondre à toutes les questions des pays membres du Conseil de coopération du Golfe.
L'Eurogroupe, qui s'est réuni en conférence téléphonique ce jeudi, a validé l'idée d'un prêt relais de 7 milliards d'euros pour la Grèce. Les créanciers, BCE, FMI et Commission européenne, estiment que la Grèce s'est acquittée de manière satisfaisante et à temps les exigences de la zone euro pour lancer des négociations sur un nouveau plan d'aide, après l'aval donné dans la nuit par le Parlement grec à une série de réformes. Jacques Aristide nous en dit plus.
Athènes s'est vu décerner ce jeudi un satisfecit de Bruxelles après le feu vert des parlementaires grecs aux réformes réclamées par ses créanciers, touchant notamment la taxe sur la valeur ajoutée et les retraites. La Banque Centrale Européenne a, elle, relevé ce même jeudi ses prêts d'urgence aux banques grecques. Leur dernière source de financement, la hausse de 900 millions d'euros accordée, correspond à ce qu'avait demandé la Banque de Grèce pour ses banques. Le vote du Parlement grec était une condition sine qua non posée lundi par la zone euro à Athènes à la poursuite d'un processus qui pourrait aboutir à la signature dans quelques semaines de nouveaux plans d'aide évalués entre 82 et 86 milliards d'euros sur 3 ans. Formellement, les négociations sur ce troisième programme ne pourront s'ouvrir qu'une fois obtenu l'accord du Parlement allemand qui doit voter vendredi.
Le président Barack Obama s'est rendu dans une prison aujourd'hui pour une bonne cause. Camille Grosdidier.
En devenant le premier président en exercice à visiter une prison, celle d'El Reno dans l'Oklahoma, le président Barack Obama entend braquer les projecteurs sur les failles du système carcéral américain, parmi les plus coûteux et les plus surpeuplés au monde. But de l'opération, attirer l'attention sur sa nouvelle campagne visant à réformer la justice et le système carcéral. M. Obama devait rencontrer des responsables de la prison ainsi que des prisonniers non violents condamnés pour trafic de stupéfiants. Dans un discours en début de semaine, le président a plaidé en faveur de la réduction ou de l'élimination des peines minimums obligatoires. La population carcérale des États-Unis a doublé en 20 ans, a constaté M. Obama. Il a également évoqué les effets pervers du placement à l'isolement complet, invitant le Congrès à adopter la réforme qu'il propose d'ici à la fin de l'année.
Et en Ukraine, le Parlement a approuvé un projet de loi soumis par le président Petro Porochenko en vue d'accorder une plus large autonomie aux régions séparatistes de Donetsk et Lugansk dans l'est du pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco, ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Le Burkina proactif face à la sécheresse. Le gouvernement burkinabé a pris une série de mesures visant à mieux faire face aux possibles futures mauvaises récoltes. En effet, cette année, la pluviométrie a été plus faible que prévu. Au programme, utilisation de semences améliorées à cycle court, augmentation du stock national de sécurité ou encore irrigation de compléments pour faire face aux poches de sécheresse. Le ministre de l'Agriculture, François Lompo, a annoncé un budget de 5 milliards de francs CFA pour la prochaine campagne agricole sèche afin de, dit-il, booster la production. Projet de loi appelant à la réconciliation en Tunisie. Le président Essebsi a proposé un projet de loi pour pardonner aux personnes condamnées ou poursuivies pour corruption à condition qu'elles remboursent l'État des sommes illégalement perçues, sauf en cas de pot de vin ou détournement de fonds publics. La société civile voit ce projet d'un mauvais œil, certains dénonçant une initiative encourageant l'impunité. Le chef de l'État a indiqué vouloir tourner la page du passé et regarder vers l'avenir. Pour motiver sa décision, le président a indiqué que sous le régime de Ben Ali, de nombreux fonctionnaires n'avaient pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Selon lui, il faut maintenant améliorer le climat des affaires et encourager les investissements pour faire face à l'épineuse question du chômage.
Merci Claire Morin-Gibault pour la Minute Éco.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
Et du nouveau dans le scandale de corruption de la FIFA.
L'un des 7 responsables de la FIFA arrêté en Suisse le 27 mai dernier à la demande des autorités américaines a été extradé hier vers les États-Unis. Selon la justice helvétique, l'homme a été pris en charge à Zurich par 3 policiers américains qui l'ont escorté jusqu'à New York. Sur demande de la personne concernée, Bern ne peut toujours pas confirmer officiellement son identité.
Rubrique transfert.
Le vétéran brésilien Robinho va retrouver ses compatriotes Paulinho et Luis Felipe Scolari, son ex-sélectionneur qui ne l'avait pourtant pas retenu pour le dernier mondial, en Chine, à Guangzhou. Et puis on parle également de Guiran Dao, 31 ans, qui s'est engagé pour 2 ans en faveur du RC Lens et de la Ligue 2 française. La saison dernière, le milieu de terrain sénégalais évoluait avec le FC Metz.
La Copa Libertadores.
À vous parler bien espagnol, Morgan. En effet, le club brésilien international des Porto Alegre a remporté hier la demi-finale aller du tournoi 2-1. C'était la nuit dernière, à domicile face au Tigre de Monterrey. Le match retour aura lieu au Mexique, ce sera le 22 juillet.
Autre Ligue des champions en Europe cette fois-ci.
Monaco, le Shakhtar Donetsk ou encore l'Ajax d'Amsterdam entrent en lice au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Ces poids lourds espèrent éviter le club turc de Fenerbahçe et ses recrues ronflantes comme Van Persie ou Nani. Le tirage au sort est prévu demain à Nyon en Suisse au siège de la FIFA.
Cyclisme, Tour de France, 12e étape.
L'Espagnol Joaquim Rodriguez de l'équipe Katusha a remporté sous l'orage cette 12e étape. La 3e et dernière dans les Pyrénées, au plateau de Baye. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky a été attaqué par ses adversaires mais n'a rien cédé. Il conserve donc son maillot jaune de leader. Et à noter Morgan que Lance Armstrong, le coureur banni du cyclisme et déchu de ses 7 maillots jaunes après ses aveux de dopage, eh bien, l'Américain a débuté son périple sur les routes de France pour une association caritative.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcil et Morgane Guerriec en votre compagnie. Place au dossier du jour, Morgane. Première escale, le Niger.
La situation des réfugiés et des déplacés devient critique à l'approche de la soudure et de la saison du paludisme dans la région déjà fragile de Diffa. Les attaques de Boko Haram continuent de faire augmenter le nombre de réfugiés. Claire Morin-Gibourg a joint le chef de la mission de Médecins sans frontières au Niger, El Mounzer Ag Zidou.
Il s'agit des attaques, surtout des attaques perpétrées de part et d'autre de la frontière par la terre, souvent des attaques ou aussi par rapport à l'installation des mesures de sécurité que l'État met en place pour sécuriser les zones. Donc tout ça cause le déplacement des populations. Mais le plus répandu, le plus fréquent, c'est surtout à la suite des attaques ces derniers moments. Des villages qui sont attaqués, brûlés, où il y a des morts, où il y a des règlements de comptes qui se font. C'est ce qui fait que les gens se déplacent à tout moment.
Quelles sont les principales difficultés pour ces réfugiés ?
Surtout de l'eau, la nourriture, la protection, les abris en général et puis surtout les ouvrages sanitaires. Donc il y a toute cette gamme de besoins qui est là déjà pour les populations auxquelles ils se greffent déjà. Les populations hautes déjà sont en insuffisance, donc quand ils viennent s'ajouter, c'est aussi un problème. Maintenant, les grandes inquiétudes se posent surtout par rapport à l'avenir de la saison des pluies, où on sait que ça vient avec les moustiques et donc avec les conséquences comme le paludisme. Et en même temps, avec le choléra, les possibles foyers de choléra, quand l'assainissement n'est pas là, on a vraiment des inquiétudes que le choléra puisse faire des ravages. Et dans tout ça, il y a aussi les contraintes sécuritaires, les mesures qui font que les humanitaires n'ont pas facilement accès et ne sont pas très actifs pour apporter la réponse qu'il faut à tous les niveaux. Donc, le gouvernement fait ce qu'il fait, les organisations essayent aussi, mais c'est trop loin de couvrir les besoins et qui inquiète pour les jours à venir parce que les besoins ne font qu'augmenter et les causes aussi ne font qu'augmenter tous les jours.
À votre avis, qu'est-ce qui vous permettrait de mieux faire face à la situation aujourd'hui ?
Actuellement, nous, à notre niveau, on a Médecins sans frontières, on a essayé d'augmenter un peu sur notre intervention, sur le plan couverture géographique, aussi bien que sur le plan activité, en couvrant plus de centres de santé, en soins de santé primaire, en ajoutant aussi quelques activités de prévention du paludisme. Mais c'est loin de couvrir parce que ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que quand le paludisme va à son pic, ce serait très difficile de couvrir une population très éparpillée dans des villages un peu souvent difficiles d'accès.
El Mounzer Ag Zidou, chef de la mission de Médecins sans frontières au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Anfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En visite à Washington, la conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles est intervenue devant l'Institut de la paix des États-Unis. Janine Mabunda-Lyoko a évoqué les progrès dans la lutte contre les violences sexuelles en droit des femmes et jeunes filles et les efforts de réintégration des enfants soldats. Un message qu'elle a repris au département d'État, soulevant la question de savoir si, grâce aux progrès accomplis, la République démocratique du Congo pourrait, entre autres, réintégrer la GOA, la loi sur les opportunités de croissance en Afrique. Il faut dire que la RDC avait été exclue de la GOA en 2010, suite aux graves violations des droits humains et à l'absence de la bonne gouvernance à l'époque. On écoute Madame Mabunda-Lyoko.
Je voudrais que finalement les gens soient à nos côtés pour nous encourager, parce que la paix, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. La paix, c'est des avancées, des petits cailloux blancs qu'on met sur le chemin tous les jours. Et donc, la paix et ce que je fais ne peut se construire effectivement que si nous sommes ensemble. Et donc, bien sûr, nous le faisons comme nation, bien sûr, nous le faisons comme Congolais, mais nous sommes en tout cas toujours ouverts à l'écoute de toute suggestion, toute initiative qui nous permette de renforcer cette lutte et de renforcer en tout cas ce chemin vers, je dirais, une réconciliation interne des Congolais par rapport à cette question de violences sexuelles et d'enfants soldats. Je suis quand même contente de voir qu'aujourd'hui, On est dans un dialogue avec les Nations Unies sur l'éventuel délistage de la RDC sur la question des enfants soldats.
Dans vos discussions avec le département d'État, est-ce que vous avez évoqué la question de la GOA?
Je reste très attentive au dialogue que nous aurons comme nation avec les États-Unis sur la question de la GOA, pour lequel nous n'avions plus été éligibles à cause des questions de violences sexuelles et de recrutement forcé d'enfants. J'espère que la mission que je mène va peut-être un jour, et plutôt dans un jour proche, je l'espère, convaincre les autorités américaines sur la question de la GOA, parce que les femmes du Congo aujourd'hui ont besoin de capacitation économique, de pouvoir économique, et ça, avec l'élargissement du traité à GOA au bénéfice de la RDC, ça pourrait être un plus.
C'est un plus dans quel sens?
Je donne un exemple. Il y a cette ONG de Ben Affleck qui a encadré en fait des femmes survivantes de viol pour des activités agricoles, notamment la production de cacao et de café, qu'ils utilisent aujourd'hui pour produire du chocolat qui est exporté aux États-Unis. Et ça, c'est un bel exemple de à quoi à GOA peut servir pour des femmes survivantes de viol qui se sont engagées dans l'economic empowerment. Donc voilà, le Congo, ce n'est pas qu'une histoire triste. Je le dis souvent, je ne peux pas faire cette mission et ce résultat que nous avons n'est pas isolé. Il s'intègre dans une politique de développement. Il y a un engagement très fort du président Kabila, il faut quand même le noter. C'est peut-être lié à son jeune âge, parce que quand on est d'une génération un peu moderne, on est plus sensible aux questions de l'égalité des genres, du positionnement de la femme, que si on a 65 ans ou 70 ans. Donc profitons de cette opportunité générationnelle-là pour capitaliser en tant que femme du Congo et pour raconter cette autre histoire du Congo.
On écoutait Jeanine Mabunda-Lyoko, conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles en RDC, jointe par Camille Gros-Didier.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Depuis la signature de l'accord historique sur le nucléaire iranien, le président Barack Obama s'est voulu rassurant quant aux soucis des États du Conseil de coopération du Golfe, de l'Arabie saoudite en particulier, et aussi d'Israël, qui reste fort sceptique. Faudrait-il s'attendre maintenant à une course effrénée à l'armement nucléaire dans cette région déjà fort instable? Une des questions posées par Idrissa Seydoudia à Setari Sig, directrice générale du service personnel à la VOA.
Commençons d'abord par Israël. C'est un pays extrêmement divisé au point de vue politique, mais on sait que les partis politiques se sont unis pour dire que cet accord, enfin, ils considèrent cet accord comme extrêmement dangereux. Mais il faut aussi dire que le Premier ministre israélien a dit que son pays fera tout pour se défendre. Alors, avec la levée de l'embargo des armes qui fait partie de cet accord dans les 5 prochaines années, je pense que le Premier ministre israélien sera un tout petit peu coincé.
Israël a toujours semblé brandir la menace d'une intervention militaire. Est-ce que c'est toujours possible ?
À ce point, je ne pense pas. Je pense que les États-Unis, bien sûr, c'est un très grand allié d'Israël, et peut-être ils vont fournir d'autres concessions, d'autres garanties à cet allié, que Susan Rice aussi en a parlé. Vous savez que le ministre de la Défense américaine va partir en Israël ce week-end pour rassurer les alliés israéliens, mais je pense qu'il y aura peut-être, c'est une spéculation, une augmentation des concessions, une augmentation des garanties de paiement de la défense.
Ok, alors concernant maintenant le côté arabe, l'Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe.
Oui, alors les dernières nouvelles qui nous proviennent de l'Iran sont que le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Zarif, va se rendre aujourd'hui à Oman et au Qatar. Ça, c'est sa première tournée régionale après la conclusion de ces négociations. Et vous savez qu'avant, l'Arabie saoudite disait que l'Iran s'ingérait vraiment dans les affaires de l'Arabie saoudite. Et ce pays était un peu blessé aussi par ce qui se passait en Égypte. Mais en ce moment, ce que nous dit M. Zarif, c'est qu'il va voyager dans les pays voisins, notamment pour parler des problèmes de sécurité et pour résoudre les problèmes régionaux et internationaux.
Parmi ces problèmes régionaux, il y a bien entendu le Yémen, il y a la Syrie, l'Irak, le Liban avec le Hezbollah et la bande de Gaza avec le le Hamas. Comment est-ce que le règlement du litige avec l'Occident pourrait-il aider à tempérer un peu le comportement que l'on reproche à l'Iran?
Bon, il y a deux scénarios. Il y a certains qui disent que le comportement de l'Iran envers la Syrie, le Yémen, au Liban et en Irak va continuer. Ils vont continuer de troubler un tout petit peu le jeu. Mais certains disent que puisque l'Iran, le rôle de l'Iran en tant qu'un joueur régional a été confirmé par cet accord, c'est dans leur intérêt aussi d'avoir un Moyen-Orient dans lequel il y a plus de paix.
Voilà, c'était Sétar Issig, directrice générale du service persan de la VOA.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur l'après tuerie de Charleston aux États-Unis, relations entre blancs et africains-américains, port d'armes, actes qui relèvent du terrorisme. Quels sont, d'après vous, les enseignements que peuvent tirer les Américains de cette fusillade de trop? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le mois de Ramadan tire à sa fin et les fidèles musulmans préparent la fête de Ramadan. Au Mali, le manque d'argent affecte sérieusement les préparatifs. Ce n'est pas la grande affluence dans les marchés de la capitale où les tailleurs, tresseuses et coiffeuses ne voient pas les clients venir comme autrefois. Pour en savoir plus sur la préparation de l'Aïd El Fitr à Bamako, écoutons ce reportage de Kassim Traoré.
Un seul mot est sur toutes les lèvres à Bamako. La fête de Ramadan, communément appelée ici Serni Fitini ou la petite fête. Partout à Bamako, dans les services, grains et dans les transports en commun, tout le monde en parle. Sedou Sila, diplômé sans emploi.
Quand toutes les pensées sont fixées vers la fête, les gens sont motivés, tout le monde est là à penser à comment préparer la fête, comment satisfaire les enfants. En sortant dans la ville, vous allez constater que tout le monde, il y a l'ambiance, il y a l'embouteillage, tout ça c'est causé par la préparation de la fête.
Le point de convergence principal des Bamakois en cette veille de fête est le grand marché de la capitale. Un marché bien fourni en articles de toutes sortes. Les clients se font rares dans les marchés, tout le monde veut attendre la dernière minute. Noum Askofaré, fonctionnaire.
Vous savez, ce n'est pas facile cette année, vraiment. Et c'est ce que j'ai dit. Actuellement, cette année, ça n'a pas été du tout facile avec le Ramadan pour les Maliens et avec la fête aussi, c'est que ce n'est pas du tout facile. Mais néanmoins, il faut se dire que tant que Dieu est là, tout va bien, Inch'Allah. Tout va bien, Inch'Allah. Tout ira bien. Malgré la difficulté, les gens vont très bien passer la fête cette année, Inch'Allah.
Si Noël est la fête des enfants chez les chrétiens, la fête de Ramadan n'en demeure pas moins pour les musulmans. Abdoulaye Larabi Diop, chef de famille.
On essaye de le faire et surtout les choses sont tellement chères. Les habits des enfants, les chaussures, c'est pas facile. Tu n'en as pas, tu vas faire un effort de chercher pour eux. Car pour toi, ce n'est pas important. C'est pour les enfants qui sont très importants. Les enfants, de voir les enfants des autres très bien habillés. Ces enfants ne sont pas habillés, c'est pas du tout facile. Moralement, ça va pas. Puis les enfants aussi, ça va jouer sur eux. Donc tu vas essayer de tout faire pour eux. Même si tu n'en es pas, tu vas chercher un moyen d'apprêter l'argent, de tout faire pour eux. Quand même, c'est pas facile.
Si tout va bien, la communauté musulmane du Mali fêtera l'Aïd El Fitr ce vendredi 17 juillet ou le samedi 18 juillet 2015. Bonne fête de Serni Fitini à toute la communauté musulmane. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
-32 degrés centigrades à Ouagadougou, 25 à Abidjan et 23 à Bujumbura. Ici à Washington, nous jouissons de 27 degrés centigrades.
La mise en onde ce soir, Michel Joseph, à la console technique, Brian Marcoulier, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.